إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication de Surat al-Ma'un, qui est une surat mécoise, selon l'avis de la majorité des gens de science. Al-Ma'un, vous le trouvez traduit, dans la traduction des sens des versets du Coran, par l'ustensile. Et nous verrons dans l'explication du dernier verset, qu'est-ce qui est visé par cela, inshallah ta'ala. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui négligent ses droits ainsi que les droits de ses serviteurs. Et il nous les a décrits par plusieurs caractéristiques qui sont des caractéristiques blâmables desquelles il incombe aux musulmans de s'éloigner. Il commence donc en disant « Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din » « Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution ?» Ceci est donc une parole adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tout musulman. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est-à-dire, celui qui ne croit pas en la résurrection, qui ne croit pas qu'il devra rendre compte de ses œuvres, et qu'il sera rétribuant en fonction de cela. Alors que la rétribution est une chose avérée incontestable. Donc la première caractéristique de ces gens, qui sont blâmés dans cette sourate, c'est qu'ils ne croient pas en la résurrection. Ou alors, qu'ils y croient mais ne s'y préparent pas. C'est-à-dire qu'ils n'accomplissent pas leurs obligations, et ne délaisse pas les interdits. Car la foi en la rétribution, elle doit te pousser à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce en accomplissant ce qui t'incombe parmi les obligations, et en délaissant les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Mais celui qui ne croit pas en la résurrection, ou alors celui qui ne s'y prépare pas, il délaisse ses obligations et transgresse les interdits. La deuxième caractéristique de ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans cette sourate, elle se trouve dans le second verset lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire qu'il fait preuve de dureté envers l'orphelin. Il n'a pas de compassion pour lui, et ce en raison de la dureté de son cœur. Mais aussi, comme on a dit, en raison du fait qu'il ne croit pas en la rétribution. Par conséquent, il n'espère pas de récompense et ne craint pas de châtiment. On voit donc à travers cela que ceux qui font preuve d'injustice envers les gens de manière générale, que ce soit envers les orphelins ou autres, alors ceci provient en réalité d'une faiblesse de la foi et d'un manque de foi en la résurrection. C'est pour cela que tu trouves dans de nombreux hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, et ainsi de suite. Car celui qui concrétise sa foi au jour dernier, celle-ci elle va le pousser à se demander des comptes à lui-même avant ce jour terrible. » Il va donc faire en sorte d'être bienfaisant et de s'éloigner de toute forme d'injustice, car il a la ferme conviction qu'il devra rendre compte de ses actes ainsi que de ses paroles, et qu'il sera jugé pour l'ensemble de ce qu'il a fait dans ce bas monde. Donc, avant d'agir, avant de parler, il va peser le pour et le contre. Est-ce que ceci va m'être profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que ceci sera pour moi source de regret au jour de la rétribution, lorsque je serai devant le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Donc celui-ci, il repousse l'orphelin. Alors que l'orphelin est un être faible, un être qui mérite de la compassion. En effet, l'orphelin a perdu son père, il a donc besoin qu'on lui comble ce manque en le prenant en charge, mais aussi en termes d'affection. Et il y a un grand mérite dans la bienfaisance envers les orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « Celui qui prend en charge l'orphelin sera avec moi au paradis comme ses deux doigts. » Et il montra son index et son majeur en les serrant et les écartant légèrement. Il y a donc dans ce hadith une incitation à cette œuvre immense et une incitation à la mettre en pratique, car le fait de prendre en charge l'orphelin, d'être bienfaisant vers lui, cela te permettra de te trouver auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et il n'y a pas de doute que ceci est le rang le plus éminent que l'on puisse atteindre dans l'au-delà. Malgré cela, cette catégorie de personnes méprisent les orphelins, sont malfaisants envers les orphelins, et ce que ce soit par leurs paroles ou par leurs actes. Il n'y a pas de doute que ceci est un grave péché commis par ceux qui mécroient et traitent de mensonge la rétribution. Car, comme on a dit, celui-ci n'est pas conscient qu'il sera rétribué à hauteur de cette malfaisance. Wallahu al-musta'an. La troisième caractéristique, elle est dans le verset suivant lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ » Et il n'encourage pas à nourrir le pauvre. C'est-à-dire qu'il n'incite pas les gens à nourrir les pauvres et les nécessiteux. Et lui-même ne les nourrit pas. Alors que les pauvres et les nécessiteux, ceux qui ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs besoins, ou ceux qui ne trouvent pas ce qui leur suffit, ils ont un droit sur les riches. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la zakat. Une part des biens et des richesses que possèdent les gens riches, elle est réservée aux pauvres, et ce afin de combler leurs besoins. La zakat obligatoire leur est donc versée, mais il est aussi fortement recommandé de venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, ainsi que de les nourrir en leur donnant des aumônes surérogatoires. Il y a donc en cela un encouragement à l'aumône et un encouragement à s'entraider dans cela, à s'inciter les uns les autres dans ce bien immense qui est de nourrir les pauvres et les nécessiteux et de combler leurs besoins. Et il y a également une mise en garde contre l'avarice et contre le fait d'inciter à l'avarice. Il y a des gens qui ne veulent pas faire le bien, mais en plus de cela, ils incitent les gens à délaisser le bien. Ils voient quelqu'un faire une aumône, il te dit « ne lui donne pas, il n'a pas besoin ». S'il faisait des efforts, il ne serait pas dans cette situation. C'est lui qui choisit cela. Ou d'autres paroles semblables, wal'iyadu billah. Et ceci fait partie des caractéristiques blâmables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans cette sourate. La quatrième caractéristique de ces gens concerne leur négligence au sujet de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ » Malheur donc à ceux qui prient. C'est-à-dire qu'ils font la prière, mais ne prient pas de la manière qui leur incombe. Mais ils sont négligents, et leur prière est seulement une prière en apparence. Ceci est donc une menace sévère à l'encontre de celui qui néglige sa prière et ne l'accomplit pas comme il se doit. Et certains gens de science ont dit, si telle est la menace à l'encontre de celui qui fait la prière, mais qui est négligent dans cette prière, alors que dire de celui qui ne prie pas du tout et qui délaisse la prière? Il n'y a pas de doute que la menace à son encontre est encore bien plus sévère. Allah subhanahu wa ta'ala décrit donc ces prières qu'il a menacées en disant « Alladhina hum an salatihim sahoun » Ceux qui sont distraits de leur prière, c'est-à-dire ceux qui la négligent, ceux qui ne la font pas en son temps, ou ceux qui négligent certains de ses piliers ou certaines de ses conditions et de ses obligations. Lorsqu'il prie, il prie à toute vitesse. Il ne s'applique pas dans ses prosternations, il ne s'applique pas dans ses inclinations, mais il fait des prosternations furtives à la manière d'un coq qui picore, sans aucune quiétude dans sa prière. Et telle est la prière de l'hypocrite. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Telle est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et guette le soleil jusqu'à ce que ce dernier se trouve entre les deux cornes du diable. Il se lève et picore 4 unités durant lesquelles il ne se rappelle d'Allah que très peu. » C'est-à-dire qu'il prie 4 unités rapidement, les 4 unités de la prière de l'Asr, juste avant le coucher du soleil, à toute vitesse, sans évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est que très peu. Telle est donc la prière de l'hypocrite. Il ne s'incline pas et ne se prosterne pas comme il se doit, mais il picore dans sa prière comme un corbeau. Il ne se rappelle que très peu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa prière. C'est-à-dire qu'il ne fait que très peu de tasbih. Pour ceux qui ont suivi avec nous les cours concernant la prière, on a vu que dans de l'inclination, il est légiféré de dire « Subhana Rabbi al-Azim » et lors de la prosternation, il est légiféré de dire « Subhana Rabbi al-A'la ». L'obligation est de le dire une fois. Le minimum de la perfection est de le dire 3 fois. Et le mieux est de le dire 10 fois. Mais il prie à toute vitesse. Il s'incline et se prosterne à la manière d'un corbeau qui picore. Il n'a pas le temps de cela. Il n'a pas le temps de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas d'invocation lorsqu'il se prosterne. Et ce, car il se relève immédiatement. Et également, il retarde sa prière au dernier moment, et c'est pour cela qu'il prie à toute vitesse. Donc sa prière, c'est quoi? C'est juste une prière en apparence. Et ce n'est pas une prière qui lui est profitable, Allahu musta'an. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, et s'appliquer dans ses prières, faire preuve de quiétude, s'incliner comme il se doit, se prosterner comme il se doit, accomplir chacun des gestes de sa prière avec quiétude, en s'immobilisant un instant dans chacune des positions obligatoires de la prière. Et médite sur sa parole, subhanahu wa ta'ala, alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui sont distraits de leur prière. Il n'a pas dit alladhina hum fi salatihim sahun, dans leur prière. Il n'a pas dit ceux qui sont distraits dans leur prière. Et ceci est un bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car en effet, il arrive à tout musulman d'être distrait dans sa prière, ou d'avoir des oublis. Il est même arrivé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains oublis dans sa prière. Car ceci est quelque chose de normal chez l'homme. Toutefois, le musulman doit faire des efforts, afin de rester concentré dans sa prière, faire preuve d'humilité dans celle-ci. Car ceci fait partie des caractéristiques des croyants, ceux qui sont bienheureux, ceux qui réussissent. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans les premiers versets de Sourate al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. Quelle est leur première caractéristique après la foi? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui sont humbles dans leur prière, qui font preuve d'humilité, qui sont concentrés dans leur prière. Donc lorsque tu pries, tu ne dois pas faire comme ceux qui prient sans savoir ce qu'ils disent, ni même savoir ce qu'ils font. Mais tu dois faire des efforts pour prier d'un cœur présent, te concentrer sur les gestes que tu fais dans cette prière, te concentrer sur les paroles que tu prononces dans cette prière. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la cinquième caractéristique qu'il blâme dans cette sourate. Alladhina hum yura'un, qui sont pleins d'ostentation. C'est-à-dire qu'ils ne prient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils prient par ostentation. Lorsqu'ils sont devant les gens, ils prient, et lorsqu'ils sont seuls, ils délaissent la prière. Donc même si leur prière qu'ils font devant les gens, elle est en apparence conforme à la législation, elle est tout de même rejetée. Pourquoi? Car elle n'est pas vouée sincèrement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, l'œuvre pour être pieuse et acceptée, elle doit remplir deux conditions. La première est qu'elle doit être accomplie conformément à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, elle doit être accomplie sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui manque à l'une de ces conditions, son œuvre elle est rejetée. Celui qui est sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mais qui accomplit une œuvre qui n'est pas légiférée, son œuvre, elle est rejetée. Et celui qui accomplit une œuvre conformément à la législation, mais qui n'est pas sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, alors son œuvre est rejetée également. Pour être acceptée, l'œuvre doit être vouée exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et être conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce verset, Allah, subhanahu wa ta'ala, blâme cette caractéristique vile qui est le fait de prier par ostentation. Et il n'y a pas de doute que l'ostentation est un grave péché, qui prive le serviteur de la récompense de ses œuvres. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, c'est-à-dire que c'est un hadith qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une œuvre en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisse alors lui et son association. C'est-à-dire que son œuvre est rejetée. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce hadith, ce qui est visé, c'est que l'œuvre de celui qui commet de l'ostentation est vaine. Il n'a aucune récompense pour celle-ci et il est dans le péché pour cela. Et l'ostentation est la chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, craignait le plus pour sa communauté. Comme il est venu dans le hadith, de Mahmoud ibn Labid, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chose que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Ils lui dirent alors, ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'association mineure? Il dit, c'est l'ostentation. Et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués pour leurs œuvres. Allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans ce bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc ceci est une menace sévère. Allah subhanahu wa ta'ala dira à ceux qui œuvraient par ostentation, allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation. Si quelqu'un prie pour rechercher les compliments des gens, pour rechercher leurs éloges, pour obtenir un rang auprès d'eux, si quelqu'un donne une aumône, afin que les gens disent qu'il est généreux, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien qui sont faites pour rechercher une place dans le cœur des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors à ces gens-là, allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation. Regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Il n'y aura pas de rétribution auprès d'eux au jour de la résurrection. Et ces œuvres seront rejetées. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Et ce, dans un long hadith au sujet de certains événements qui auront lieu au jour de la résurrection. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans celui-ci, Allah découvrira alors sa jambe et tout croyant se prosternera pour lui. Tout croyant se prosternera pour Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ensuite ce qu'il dit. Resteront debout ceux qui se prosternaient pour Allah par ostentation. À chaque fois qu'ils essayeront de se prosterner, leur dos redeviendra droit. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ceci incite le musulman à faire preuve de sincérité dans ses œuvres. Tu ne dois vouer tes prières ainsi que l'ensemble de tes œuvres qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas rechercher les éloges ou les compliments des gens. Car si tu fais cela, alors au jour de la résurrection, tu seras du nombre des perdants. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporté dans le hadith des trois premières personnes qui seront jugées au jour de la résurrection. Il y aura parmi elles un homme qui a appris la science, l'a enseigné, qui a appris le Coran. On l'amènera alors, on lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé, il les reconnaîtra. On l'interrogera ensuite, et qu'en as-tu fait? Il dira, j'ai appris la science, je l'ai enseigné, et j'ai lu le Coran pour toi, oh Allah. On lui dira alors, tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour que l'on dise de toi que tu es un lecteur, et ceci a certes été dit. Ceci a certes été dit, ce que tu recherchais, les gens l'ont dit donc, tu as obtenu la rétribution que tu recherchais de ton œuvre. Tu as déjà été récompensé. On ordonnera alors de le prendre et il sera traîné sur le visage jusqu'à être jeté en enfer. Et il en sera de même pour le riche qui faisait des aumônes afin que l'on dise qu'il est généreux et le combattant qui combattait afin que l'on dise qu'il est courageux. Donc ce hadith également c'est une menace sévère contre le fait de faire de l'ostentation dans nos œuvres. Le musulman doit donc faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant exclusivement le culte. Tu ne dois pas rechercher à travers tes œuvres, que ce soit la prière ou autre, les éloges ou les compliments des gens, car ceci ne te sera d'aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que ton œuvre soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc l'avouer exclusivement à ton Seigneur. Enfin, la sixième caractéristique blâmable qui est mentionnée dans cette sourate, et dans le dernier verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ » et refuse l'ustensile. Donc « الْمَعُونَ » comme on a dit, qui est traduit par l'ustensile, c'est tout ce que l'homme peut avoir besoin de se faire prêter. Que ce soit un ustensile ou toute autre chose, comme par exemple une voiture, un outil, un récipient, ou toute autre chose que l'homme peut avoir besoin de se faire prêter. Donc lorsque tu prêtes une chose à quelqu'un, tu es récompensé pour cela. Car si tu prêtes à ton frère ce dont il a besoin, en lui prêtant cette chose, tu as comblé son besoin. Ensuite, tu récupères ce que tu lui as prêté, après qu'il en ait profité, et après qu'il ait comblé son besoin. Tu obtiens donc une récompense pour ceci, car ceci fait partie de l'entraide dans le bien. Il y a donc dans ce verset un encouragement à l'entraide entre les musulmans, en se prêtant les uns les autres ce dont ils ont besoin. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ici blâmé celui qui refuse de prêter. Et certains savants ont dit que prêter est une obligation. Et ce, en raison de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, à l'encontre de ceux qui refusent de prêter. Toutefois, la majorité des gens de science sont d'avis que cela est une sunna qui est recommandée. Mais elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu refuses sans raison, tu n'as pas de péché. Mais malgré ça, il te convient de rechercher en cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. De combler les besoins de tes frères et sœurs en leur prêtant ce dont ils ont besoin. Sauf si tu crains une nuisance. En effet, il y a des gens, ils sont connus par exemple pour ne pas prendre soin de ce qu'on leur prête. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à refuser de prêter à ce genre de personnes. De la même manière, si une personne est connue pour ne pas rendre ce qu'on lui prête, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que tu vas lui refuser. Car ceci est une forme de vol et c'est un grave péché. Donc de manière générale, le musulman il est encouragé au prêt, à prêter ce qu'il possède à ceux qui en ont besoin. Et celui qui se fait prêter un objet, quel qu'il soit, que ce soit un outil, une voiture, un ustensile, un récipient ou toute autre chose, il se doit d'en prendre soin et de le restituer à son propriétaire une fois qu'il n'en a plus besoin. On voit donc dans cette sourate l'importance de concrétiser notre foi au jour dernier. Car comme on a dit, le fait de se rappeler le jour dernier, se rappeler que tu auras des comptes à rendre de tes œuvres, ceci va t'aider à te corriger ici-bas, à réformer tes œuvres, à multiplier les œuvres de bien et à t'écarter des œuvres de mal. Quant à celui dont la foi au jour dernier est faible, qui ne se rappelle que très peu de l'au-delà, alors celui-ci, il ne pèse pas ses mots, il ne pèse pas ses actions, car il est insouciant du jour où il devra rendre des comptes. Donc le musulman, il se doit de sans cesse se rappeler ce jour terrible, se rappeler que chacun de ses mots, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes, il aura à en rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Il y a également dans cette sourate un encouragement à la bienfaisance envers les orphelins et également envers les pauvres et les nécessiteux, en leur faisant des aumônes et en les nourrissant. En raison de ce que ces œuvres comportent comme mérite et comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également dans cette sourate une mise en garde contre la négligence de la prière, de ne pas négliger ses piliers, de ne pas négliger ses conditions, d'accomplir ses prières de la meilleure manière, en les accomplissant en leur temps, en ne les faisant pas sortir volontairement de leur temps, en ne les retardant pas, en priant d'un cœur présent, et ainsi de suite. Le musulman, il doit donc s'appliquer dans sa prière, ne pas la négliger, et se rappeler que cette prière est le pilier le plus important de l'islam, après les deux attestations de foi. Il y a également, comme on a vu, une mise en garde contre l'ostentation, contre le fait de rechercher les éloges, les compliments des gens à travers nos œuvres, qui ne doivent être voués qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il y a dans cette sourate, comme vous l'avez entendu, un encouragement à l'entraide entre les musulmans, comme, par exemple, en se prêtant les uns les autres ce dont on a besoin. Ceci était donc une explication concise de cette sourate. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.